Le journal de l'économie avec François Geffrier.
Il est 6h49, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, DMA, les trois lettres censées faire trembler les géants américains de la tech en Europe. Après les ZAD et les manifs anti-bassines, la France est-elle vraiment prête à accueillir des mines de lithium sur son sol? Et puis l'Allemagne réforme ses retraites et là-bas, on ose mettre une dose de capitalisation dans le système. Aux yeux de ses promoteurs, c'est une révolution. Le Digital Markets Act entre en vigueur aujourd'hui. Le DMA, son petit nom, une sorte de bouclier pour prévenir plutôt que guérir en matière de concurrence et d'abus de position dominante. Les Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft ou encore TikTok sont visés, régulièrement épinglés par de longues enquêtes. Avec le DMA, tout doit aller plus vite. Eric Kuoch.
Les géants du numérique ont enfermé leurs utilisateurs dans un environnement duquel il est difficile de s'échapper. C'est le constat de Bruxelles. Un client de l'iPhone, par exemple, a son iCloud, son App Store, son Apple Music. Tout est à portée de doigt, mais rien n'est compatible avec les appareils des autres marques. Or, le Digital Market Act met un terme à cela. Le client pourra utiliser indifféremment Google Play ou l'App Store, voire aucun des deux, pour télécharger ses applications. Une législation inédite dans le monde, mais qui pourrait inspirer d'autres initiatives, note l'économiste du numérique, Sarah Guillou.
Ça s'inscrit quand même avec tout un tas de positions, aussi des autorités de la concurrence partout dans le monde. Même les autorités américaines sont aussi très attentives aux abus de position dominante vis-à-vis de ces acteurs.
Pour éviter les monopoles, les grandes plateformes devront également informer Bruxelles de toute volonté d'acquisition d'entreprises du numérique en Europe. Le but est de protéger les innovations et le développement de futurs concurrents.
Le marché européen est suffisamment attractif pour faire en sorte que ces règles ne soient pas une entrave à leur appétit d'accéder aux consommateurs européens.
En cas d'entorse, ces entreprises risquent une amende jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires mondial. Meta, Apple et TikTok ont déjà déposé des recours, mais rien qui puisse remettre en cause l'objectif final, la fin du Far West numérique.
Eric Kuoch en parlait justement des géants de la tech dans la chronique de Natacha Valla un peu plus tôt dans la matinale. Les entreprises superstars, c'était ce matin à 6h20, les classiques de l'économie à retrouver en podcast sur l'application Radio Classique. Il y avait Disney+, Paramount+, et aussi TF1+. Hier soir, le groupe M6 a dévoilé sa nouvelle plateforme de streaming. Devinez son nom, M6+, et oui, elle va remplacer Sisplay. Elle sera lancée juste avant l'Euro 2024 de football diffusé sur M6. Alors ces plateformes télévisées peuvent-elles trouver leur place dans ce paysage numérique? L'analyse de Laurent Colombani, associé chez Bain & Company en charge du pôle médias et divertissement.
Il y a un espace à occuper. Alors bien sûr, c'est un espace assez concurrentiel où il y a beaucoup de plateformes qui se battent pour l'attention des téléspectateurs. Mais pour les diffuseurs, ça accompagne deux choses. D'une part, ça accompagne les téléspectateurs eux-mêmes qui sont de plus en plus sur des plateformes à la demande. Donc s'ils ne les accompagnent pas, il y a un risque de perte de part d'audience. Et d'autre part, on peut également cibler la pub plus d'un point de vue contextuel par rapport aux programmes que les gens ont vus, sont en train de voir et vont voir. On a plus de données en fait à exploiter pour individualiser finalement le flux publicitaire aussi. C'est-à-dire que tous les consommateurs ne voient pas la même publicité nécessairement au même moment, ça permet de mieux cibler. Ce qui est plus difficile à faire sur la télévision classique, bien sûr.
Un brusque coup de froid hier, soufflé par Bruno Le Maire dans une interview au Monde, puis avec son collègue du budget Thomas Cazenave en audition à l'Assemblée. Il justifie les 10 milliards d'euros d'économies qui viennent d'être imposés par décret. Il faut simplement refroidir la machine, dit-il. Quand on gagne moins, on dépense moins. Ces 10 milliards ne sont pas un coup de rabot, mais un frein d'urgence. Le ministre annonce aussi un déficit 2023 significativement supérieur aux prévisions. Thomas Cazenave va lui annoncer que pour 2024, ce ne sont pas 12, mais finalement 20 milliards d'euros d'économies qu'il faudra trouver. Les dépenses sociales seront cette fois touchées également. 20 ans après la fermeture de la dernière mine de charbon en France, de nouveaux projets d'extraction voient le jour. On cherche du cobalt, du nickel, du lithium. Dans l'Allier, près de Montluçon, le groupe Imerys projette d'implanter une mine pour extraire 34 000 tonnes par an de lithium. Une consultation publique va débuter. Les industriels travaillent donc à l'acceptabilité du projet. Zoé Pallier.
Cette mine va polluer nos sols, nos eaux, notre air et générer des milliers de tonnes de déchets, s'alarme l'antenne locale de France Nature Environnement. Le groupe Imerys, lui, vante un modèle plus vertueux qu'à l'étranger. Guillaume Delacroix, son directeur général chargé des minéraux de performance.
Il nous faut, dès le début, assumer des surcoûts que j'estime à environ 20% par rapport à si on était moins 10 ans au niveau environnemental. Par exemple, on n'est pas comme en Australie où on va avoir une sorte de grande mine à ciel ouvert. On a fait le choix d'une mine entièrement souterraine afin de préserver des dizaines d'hectares de surface et de limiter l'impact visuel.
Car si les nouveaux projets miniers n'aboutissent pas, ce ne sera pas à cause d'un manque de main-d'œuvre ou de savoir-faire technologique, mais parce qu'ils n'auront pas convaincu, explique Christian Mion, spécialiste de l'industrie extractive.
L'ensemble des recours juridiques qui vont se succéder, c'est l'obstacle principal. À juste titre ou pas, mais à partir du moment où vous avez des interrogations juridiques sur l'aboutissement d'un projet, vous n'aurez pas un banquier qui va financer. Et donc, ce qui devait aller vite, finalement, on va mettre 6 ans, 10 ans de recours juridique.
Mais avant une consultation publique, l'ampleur de l'opposition locale est difficile à estimer, pointe le think tank La Fabrique de l'Industrie. Elle dépend de chaque territoire et de son passé industriel et minier.
Zoé Pallier, lui, rêve d'extraire des matières premières sur la Lune ou sur Mars. Elon Musk et sa société SpaceX qui annoncent un nouveau tir de sa méga-fusée Starship la semaine prochaine. Les deux premiers lancements avaient fini en feu d'artifice géant. Une réforme des retraites en douceur, c'est en Allemagne que ça se passe, avec une méthode qui ferait bouillonner le débat public si on l'appliquait chez nous. Bonjour Patrick Brandmeier.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie. Pourquoi l'Allemagne met en place une dose de capitalisation dans son système de retraite ?
En fait, le gouvernement fédéral d'Allemagne veut stabiliser le niveau des retraites et freiner la hausse attendue des cotisations de retraite. Et pour le faire, le financement doit donc reposer sur un pilier supplémentaire qui s'appelle donc la retraite basée sur le capital. Donc il s'agit de constituer un capital générationnel et qui doit se donc rajouter comme troisième pilier en plus des paiements provenant d'une part des taux de cotisation des salariés et des paiements annuels provenant du budget fédéral. À savoir qu'aujourd'hui, l'État contribue déjà à hauteur de 100 milliards d'euros.
À quoi ressemblera ce mécanisme ?
Selon le ministre allemand du Travail, Hubertus Heil de la SPD, et son collègue, notre ministre des Finances, Christian Lindner, l'État fédéral investira des milliards sur les marchés financiers pour constituer un capital générationnel à partir de cette année. Donc l'État versera ensuite des subventions à l'assurance retraite à partir des revenus générés par ce capital à partir du milieu des années 2030. À terme, la constitution d'un stock de capital d'environ 200 milliards d'euros permettra, on l'espère, d'amortir l'augmentation attendue des cotisations de retraite en raison du vieillissement de la population.
On voit bien l'intérêt financier. Est-ce qu'il y a des grandes manifestations ? On n'en a pas vu a priori la trace. Est-ce que cette mesure fait débat chez vous en Allemagne ?
Naturellement, ce type de réforme, je le rappelle, on a eu la même discussion en France l'année dernière, c'est-à-dire une réforme de retraite, elle fait débat en Allemagne également. D'un côté, vous avez les réformistes du camp libéral qui soulignent donc les avantages d'un tel système. De l'autre côté, nous avons par exemple les confédérations allemandes des syndicats qui ont critiqué ce projet parce qu'elles craignent pour les risques financiers suite au mouvement sur le marché financier. De toute manière, le secrétaire général de la SPD, donc de la gauche, qui sont au pouvoir, monsieur Kevin Kühnert, a souligné que l'État ne spécule pas sur les marchés financiers avec les cotisations des salariés. Et donc, le risque n'est pas supporté par ses assurés.
Merci beaucoup, Patrick Brandmeier. Les marchés financiers, vous en parliez, ils ont légèrement progressé hier, plus 0,20% pour le Dow Jones, plus 0,60% pour le Nasdaq, et le CAC 40 a pris 0,30%. Et puis, c'est une dirigeante rare avec un parcours vraiment hors norme que vous propose Céline Cajoulis dans Secret de dirigeant. Nouvel épisode ce matin. Ilham Kadri, la PDG de ScienceCo, née au Maroc. Elle a fait ses études en France. Elle a obtenu un diplôme de docteur en chimie moléculaire. Elle est partie faire carrière à l'étranger et en 2019, elle a été chassée pour prendre la tête du géant de la chimie Solvay. Elle raconte à Céline Cajoulis que Solvay, c'était aussi son tout premier job.
Je voulais faire un stage pour avoir un peu d'argent. J'ai passé mon permis de conduire d'ailleurs. Et ça m'a beaucoup d'ailleurs touchée ce stage parce que c'était dans le laboratoire des analyses des eaux. Et je suis partie franchement en me disant « Waouh !» quelque chose qui m'intéresserait probablement plus tard. Je dirais à la jeune, elle a bien fait. Je dirais à tous les employeurs et les patrons qui nous écoutent, faites attention à vos stagiaires, elles peuvent devenir votre PDG.
Voilà, l'ancienne stagiaire Ilham Kadri, devenue PDG de Solvay et ScienceCo. Elle est donc dans le dernier épisode de Secret de dirigeant à retrouver sur l'application Radio Classique. À tout de suite.